Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous arrivons à la fin, pratiquement, de cette série. Et je vais essayer d'avancer un peu et de parler de ce que je décris ici, réformer et reformer l'État et la société, donc le projet de Mahmoud. Si vous saviez le temps que je passe à essayer de trouver un titre aguichant à chaque fois, sans tomber dans des platitudes ou des jeux de mots faciles. Bon, mais je crois que ça dit bien ce que je veux dire. Nous parlons d'une révolution par le haut. Nous parlons d'un souverain qui est en train de se reconstituer, de transformer la manière dont un souverain est perçu dans le système ottoman. Et qui, de ce fait, est en train de modifier ou de tenter de modifier le système à sa guise. On a déjà assez parlé du massacre des janissaires, l'élimination, la purge, si vous voulez, pour utiliser un terme moderne, ça fait penser un peu à l'Union soviétique, ça fait penser à d'autres contextes aussi, une purge, une véritable purge de la société par le biais de ce corps d'élite, ou soi-disant d'élite, de l'armée ottomane. Je vous ai choisi... Alors là, je ne peux pas trouver toujours exactement ce qu'il faut en tant qu'image, mais j'ai trouvé une belle image qui est un peu plus tardive, vers 1840, par un certain Hubert Sattler. C'est un Autrichien dont la spécialité, semble-t-il, était une des lubies du 19e siècle, très très populaire, les cosmoramas. Il peignait des cosmoramas et ensuite il les exposait à Vienne. Et donc il voyageait énormément pour reproduire des scènes de sites célèbres et de villes célèbres. Et voici une partie de son cosmorama de Constantinople, d'Istanbul. Si je l'ai choisi, c'est pas uniquement parce que c'est joli et que ça a des couleurs, c'est aussi parce qu'on y voit, je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène que nous avions la semaine dernière, de Mahmoud accompagné de son Selasker, Hüsrev Pacha, se rendant à la... au Seraskerlik, au Seraskera, c'est-à-dire au ministère de la guerre. On avait vu cette porte assez typique, un grand auvent, qui ressemble en fait à la Sublime Porte. C'était la porte d'entrée de ce qui est aujourd'hui le campus de l'Université d'Istanbul, ce qui était à l'époque le Eski Saray, le vieux Serail. Et on y voyait donc, on était exactement de l'autre côté, en fait, de cette porte. Vous voyez, la voici, cette porte. Cette porte est donc la nouvelle porte de cette institution qu'il a créée, non seulement l'armée, puisque effectivement il a transformé l'armée, mais c'est la structure même, le fait d'avoir un généralissime à la tête de l'armée, le premier étant le fameux Hussein Agha Pacha qu'on avait vu dépeint par Champmartin, cet ancien janissaire qui avait épousé la cause de son maître et qui était devenu l'instrument de la montée en puissance de Mahmoud. Donc, pour ceux que la topographie d'Istanbul intéresse, nous sommes au sommet de la tour de Bayezid, la tour qui existait avant, et c'était une tour plus ou moins consacrée aux janissaires, puisque c'était une tour d'incendie, c'est-à-dire qu'on y montait le guet pour les incendies qui étaient fréquents. On en a vu un exemple la semaine dernière. Les janissaires ayant la charge du corps des pompiers, cette tour était identifiée avec le corps des janissaires. Elle a été abattue après 1826 et ensuite rebâtie et rebaptisée tour du Seraskerat, tour du généralissime de l'armée. Et ce qu'on voit ici, ce sont bien sûr les anciens murs du palais, ce palais secondaire qui était utilisé essentiellement comme remise pour les dames d'un certain âge qui avaient vu de meilleurs règnes. Et là, vous avez la partie noble de la ville. On voit ici Hagia Sophia, Sainte Sophie, la mosquée bleue ici. Ici, cette fameuse mosquée de Nour Osmanie dont je vous ai parlé l'année dernière à cause de son style baroque, et on reconnaît ici sa cour en fer à cheval, en ovale, qui est très, très, très italienne, si vous voulez. Et ici, la mosquée de Bayezid, qui n'est pas aussi grosse qu'il ne paraît, c'est tout simplement un phénomène de perspective que Sattler ne maîtrisait peut-être pas tout à fait. Elle est magnifiée, elle est amplifiée du fait de sa proximité. Et toute cette section-là, d'ailleurs vous voyez tous ces dômes, cette multitude de dômes, c'est le grand bazar, c'est le cœur. Le cœur économique de la ville, ce sont les han, ces édifices commerciaux, c'est le nerf, si vous voulez, financier et commercial de la ville. Ce qui est intéressant ici, bien sûr, c'est la reconversion de cet ancien palais, et la reconversion, on la voit bien ici, avec des tentes, c'est un camp militaire. Et pour les Ottomans, le camp est très important. Je vous rappelle que lors de l'événement heureux de 1826, Mahmoud, le sultan, et son entourage ont littéralement campé pendant près d'un mois pendant les opérations. Le fait de camper, le fait de quitter son palais et de se mettre sous la tente, c'est en fait un geste militaire, c'est le fait de se mettre en campagne et c'est le fait de souligner en quelque sorte le côté extrêmement militaire de cette révolution que nous avons déjà étudiée. Ce qui est différent en revanche ici, ce sont les tentes elles-mêmes. Je ne suis pas un spécialiste de l'art militaire, mais là, ce que vous voyez, ce ne sont pas des tentes ottomanes, dans la tradition ottomane, qui sont en général des tentes extrêmement fleuries, décorées, un peu à la manière des tapisseries et des tapis d'Orient, surtout celle du sultan, où vous avez un énorme auvent qui permet au sultan de siéger, de trôner, même s'il est en campagne. Et c'est une tradition qui sera maintenue jusqu'à la fin de l'Empire. C'est-à-dire que vous avez des photos de Vahdettin, Mehmet VI Vahdettin, le dernier sultan ottoman, qui, en 1918-1919, assiste à un spectacle plus ou moins militaire sous la tente, ou du moins sous le dé qui symbolise la tente. Et bien sûr, le dé est recouvert au sol par des tapis orientaux. Donc, tandis que là, ce que l'on voit, ceux qui ont une familiarité avec la culture visuelle du XIXe siècle, vous y reconnaîtrez des tentes modernes, des tentes militaires modernes, comme on les faisait au XIXe siècle, telles qu'on les verra souvent dépeintes dans des illustrations de campagne, par exemple la campagne de Crimée, quelques 20 ans plus tard. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir déjà une modernité vient se greffer sur un contexte, un espace extrêmement traditionnel, ancien, mais en plus, c'est aussi la militarisation de la ville, la militarisation de l'État. Parce que ce que Mahmoud est en train de faire, il le fait manu militari, il le fait grâce à cette nouvelle armée qui s'est formée, et par conséquent, il est en train de reconstituer, reconfigurer, redéfinir toute la ville à coup de bâtiments militaires, notamment des casernes. Cela avait déjà commencé au XVIIIe siècle. Il y a un certain nombre de casernes, par exemple la caserne de Taksim, qui est encore aujourd'hui un des centres de la ville moderne. Les premières casernes de Taksim ont été bâties au XVIIIe siècle. De même, cette énorme bâtisse qui se trouve de l'autre côté du Bosphore, du côté de Üsküdar, entre Üsküdar et Kadıköy, la caserne de Selim Yeh, elle tient son nom de Selim, troisième du nom, même si la bâtisse que l'on voit aujourd'hui et qui a apparemment la particularité d'être une des bâtisses militaires les plus grandes au monde, sûrement après le Pentagone, mais enfin, c'est une caserne mahmoudienne. C'est une caserne qui a été bâtie justement dans les années 1820 et 30 par Mahmoud. Donc toute la ville est entourée, mais aussi truffé à l'intérieur de casernes. Il n'y en a pas vraiment dans la vieille ville, la ville intramuros, mais vous en avez beaucoup du côté de Galata de Péra, sur les hauteurs, et vous en avez surtout tout le long du pourtour des murs de Constantinople, Rami, etc. Ce sont des bâtiments qui signifient en quelque sorte cette transformation de l'État en un État de plus en plus militaire. L'État s'arme. L'État s'arme et il le fait de manière systématique. Ça fait partie justement de la manière dont Mahmoud est en train de reconfigurer tout le système. Enfin, encore une fois, pour décrire la topographie de la ville, puisqu'on a toujours envie d'avoir un sens de l'espace, là, vous avez les murs maritimes, les murs qui longent la mer de Marmara jusqu'au château des Sept Tours. Donc c'est le coin, si vous voulez, des fortifications byzantines de Constantinople. À partir de ce point, les murs commencent à se diriger vers le nord et vers l'intérieur et rejoignent de l'autre côté la Corne d'Or. En face, vous avez donc Üsküdar, qui est un peu plus à gauche, on ne la voit pas, c'est l'endroit le plus urbanisé, si vous voulez, mais dans un sens extrêmement traditionnel du terme, de la ville de Constantinople. Là, vous avez ce qu'on appelle Fenaraki ou Fenerbahçe aujourd'hui, c'est-à-dire une petite langue de terre qui s'avance dans la mer de Marmara et au bout duquel se trouve un phare, d'où le nom Fenaraki ou Fenerbahçe, le jardin du phare, le petit phare ou bien le jardin du phare. Et là, ce que vous avez ici, ce sont les îles dites des princes, que les Ottomans appellent les îles rouges ou rousses, à cause de la couleur de la terre, Kızıl Adalar, même si aujourd'hui on les appelle Prince Adaları, enfin, ce sont les Kızıl Adalar, ou alors tout simplement Adalar, les îles, puisque il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que ça comme île, il y en a quatre qui sont habitables, les autres ce sont plutôt des îlots, on les connaît comme étant les îles d'Istanbul. Et derrière, vous avez le rivage sud de la mer de Marmara, vers Bursa, Brousse, le mont Olympe, etc. L'Olympe anatolien, bien sûr, à distinguer de l'Olympe grec. Voilà, donc une image qui a l'avantage de vous donner une vision assez particulière et assez rare de la ville, puisqu'on a tendance à la voir toujours des hauteurs de Péra dépeintes par les diplomates, les voyageurs, etc. Donc on a toujours la pointe du sérail, le sérail, les grandes mosquées, la silhouette, la célèbre silhouette de la ville. Là, c'est un point de vue, une perspective différente qui est, à mon avis, extrêmement intéressante parce qu'elle vous montre des sections de la ville qui sont rarement vues. Mais encore une fois, l'accent est surtout sur ce camp à l'intérieur de la ville. C'est l'État qui, tout d'un coup, se militarise et devient de plus en plus prenant dans la ville, dans la ville même. Un petit rappel avec un autre passage de cette transformation Mahmoud. Le grand seigneur a maintenant changé toutes ses habitudes, on l'a déjà vu dans d'autres extraits. Il est toujours à cheval, une lance à la main, exerçant ses pages, s'exerçant lui-même et passant en revue les troupes de la nouvelle formation. Vous vous rappelez qu'il insistait pour se définir en tant que binbashe, donc capitaine, et non colonel comme c'était traduit dans le texte, mais bon... colonel ou capitaine. Et ce qui est intéressant, il ne veut pas être généralissime, il veut être un officier dont la mission est de former ses hommes. Donc il s'implique directement. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Encore une fois, je vous rappelle que le sultan ottoman, depuis le XVIe siècle, a en fait disparu de la circulation. C'est-à-dire qu'on ne le voit que très rarement. Et dans un contexte qui est extrêmement ritualisé, on le voit tous les vendredis lorsqu'il va à la prière, et c'est une procession où il est perdu parmi ses pages et son entourage. Sinon, le palais de Topkapı lui sert d'écrin, en quelque sorte, mais surtout de lieu de retraite. C'est-à-dire que si vous vous souvenez de la topographie du palais de Topkapı, vous avez une première cour, la plus grande, qui est d'un accès plus ou moins universel, tout le monde peut y accéder d'une manière ou d'une autre. Vous avez une seconde cour, un peu plus petite, mais toujours assez vaste, où se trouve l'état, c'est-à-dire le divan, les cuisines, enfin, tout ce qui fait tourner la machine, si vous voulez. Et ensuite, vous avez la troisième cour avec le harem, ou plutôt les harems, parce qu'il faut toujours se souvenir que dans le système ottoman, vous avez un pendant masculin du harem. On pense toujours au harem comme étant le harem des femmes, etc. C'est vrai, bien sûr, et c'est une ville dans la ville, mais vous avez les odas des pages, les odas, c'est-à-dire les casernes, en fait, des pages, et ces pages constituent l'environnement privé, la maison privée du sultan. Et lui-même est au milieu de ce petit monde, et c'est un monde qui est inaccessible. Inaccessible, sauf à de rares occasions, par exemple, lorsqu'on a une audience du sultan, et encore, on ne va que jusqu'à la salle des audiences, et on ne va pas au-delà. Donc, le sultan qui, au départ, souvenons-nous des temps heureux où les Ottomans étaient des gazis, où ils guerroyaient allègrement. À cette époque-là, le sultan est partout, il est présent, il est primus inter pares, il est l'égal, mais un peu plus égal que les autres, il participe à la guerre, il participe à tout, il est beaucoup plus égalitaire, il est beaucoup plus présent, beaucoup plus visible. Au fur et à mesure, il commence à se retirer visuellement, physiquement. Ça commence en fait avec Mehmed II, le conquérant, avec la vision impériale. On commence à sublimer en quelque sorte l'identité du sultan. Ça n'est plus un gazi parmi les gazis, c'est le sultan. Et par conséquent, on le voit moins, on accède moins à sa présence. Et même s'il participe à des campagnes, ce qui le rend quand même visible jusqu'à un certain point, c'est toujours dans une ritualisation, dans une organisation qui le coupe de l'univers du commun des mortels. Donc, et à partir de la fin du XVIe siècle, une fois que les campagnes sont aussi arrêtées, ou du moins que le sultan ne va plus en campagne, le sultan est complètement confiné à son palais et n'en sort que pour la cérémonie d'investiture et pour la prière du vendredi. Et bien sûr, les deux pieds devant à la fin d'un règne. Donc c'est vraiment extrêmement limité. On ne voit plus le sultan. Et ça, bien sûr, on peut l'interpréter de toutes sortes de manières, mais c'est vrai que ça rend à la personnalité du sultan une sorte de prestige, d'aura. L'invisible est d'autant plus facile à devenir absolu. Donc ça marche un peu dans ce sens-là, mais ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'à force de sublimer et de retirer le sultan de la circulation, ils deviennent échangeables, remplaçables et échangeables. Ce qui explique que le régicide, ou du moins l'abdication forcée, le détrônement des sultans et leur remplacement par le prochain en ligne, est quelque chose qui se fait avec beaucoup plus de facilité que dans les monarchies occidentales. dans les monarchies occidentales, il faut tuer le roi si on veut vraiment le remplacer. Il faut un Ravaillac, il faut une révolution, il faut quelque chose. Sinon, vous n'avez pas les moyens vraiment de remplacer, de jongler avec une multitude de candidats. Or, le système ottoman, surtout à partir du XVIIe siècle, est fondé là-dessus. Donc, c'est un équilibre assez étrange entre une sublimation qui augmente, amplifie la personnalité du sultan et quelque chose qui le rend en fait tout à fait invisible et par conséquent échangeable avec quelconque autre prince de la dynastie. Donc c'est cela que Mahmoud, pour la première fois, va briser de manière magistrale. Non seulement il est visible, on le voit parader, etc., mais il prend sur lui ce rôle d'instructeur, de participant, extrêmement actif dans la redéfinition de l'État. Donc il est toujours à cheval, une lance à la main, etc. Mais ce même changement de vie lui inspire un ton de jetance qui, quelquefois, alarme ses ministres. Alors pour ceux d'entre vous, et j'en étais, qui ne savent pas ce qu'est la jetance. C'est pas tous les jours qu'on utilise ce terme. La jetance, bon, on le devine, c'est une forme d'arrogance. C'est un terme qui apparemment est oublié, mais bon, grâce à Google, on trouve tout. Disons que c'est quelqu'un qui en jette beaucoup, si vous voulez. C'est de la jetance. Mais ce qu'il dit là, c'est intéressant parce que encore une fois, il parle du rôle politique qu'il commence à jouer. Ce n'est pas simplement une fanfaronnade, c'est le fait qu'il est en train de s'accaparer quelque chose qui était jusque-là la propriété des dignitaires. Parce que c'est ce qui surprend toujours dans le système ottoman, le fait qu'on appelle ça le despotisme oriental, etc., mais en fait, le sultan est extrêmement fragile, extrêmement limité dans sa capacité à régner vraiment. Il règne, mais il ne peut pas vraiment diriger. Il est souverain, mais il n'est pas forcément capable de gérer la situation puisqu'il doit s'en remettre à des institutions, il doit s'en remettre à des personnages, à des factions, et c'est comme ça que la politique ottomane marche. De là à dire que c'est une politique ou un système représentatif, non, bien sûr, on n'en est pas là, mais ça n'est pas un despotisme qui pourrait se traduire par une forme d'autocratie concentrée dans un seul personnage. Or, ce que l'on voit en ce moment, c'est que Mahmoud est en train de se constituer en autocrate. Il est en train d'essayer de se construire en autocrate, ce qui, à l'avenir, va inspirer d'autres sultans, par exemple Abdulhamid à la fin du siècle. Donc un ton de jetance qui, quelquefois, alarme ses ministres. On sent bien que les ministres se disent « Mon Dieu, le système est en train de changer, on est en train de perdre le contrôle plus ou moins corporatiste que nous avions sur le système, il est en train de jouer tout seul au sultan. » Il parle en calife des anciens temps, donc on voit bien qu'il est en train de se... Encore une fois, j'insiste sur le terme, en anglais, « fashioning oneself », se façonner, se construire. Il est en train de construire une image de lui qui est en train de puiser dans tout ce qui est disponible en matière de rhétorique et de symbolique politique. C'est-à-dire que, d'un côté, il va piocher dans le répertoire occidental, et on le verra avec le costume, etc. Mais d'un autre côté, il n'hésite pas à utiliser les références les plus traditionnelles. On l'a vu pendant l'événement, toutes ces références à l'islam, mais plus que cela, il pose en calife. Or ça, pour les sultans ottomans, on sait qu'ils sont califes depuis la conquête de l'Égypte et du Hejaz en 1517. Mais c'est un titre et c'est une fonction qu'ils utilisent très peu de manière vraiment concrète. Le fait de déployer l'étendard du prophète et ensuite de jouer au calife des anciens temps, ça c'est une nouveauté, le calife des anciens temps, parce que là vous vous référez en fait à l'islam dans ses débuts, ce que les musulmans et les ottomans appellent le Asr Saadet, c'est-à-dire l'époque heureuse, l'époque du bonheur, une sorte de passé plus ou moins sur lequel on fantasme pour s'imaginer une société idéale. Donc il est en train d'utiliser ces références extrêmement primaires, allais-je dire, pour se constituer une personnalité forte et autoritaire. Et semble ne connaître plus d'obstacles depuis qu'il a brisé les janissaires. Le ministère, uni à la partie saine des oulémas, puisqu'on sait qu'ils sont tous fous, n'est-ce pas, joue le rôle de modérateur. Donc on voit, encore une fois, j'adore cette vision, même externe, même un peu ignorante, des Occidentaux, parce qu'ils essayent de comprendre. C'est la curiosité. Et par conséquent, ils essayent de voir comment ça marche, comment le système marche, et ils voient qu'il y a un jeu des équilibre et que les oulémas, qui l'avaient soutenu au départ dans sa destruction des janissaires, sont en train maintenant de se rendre compte qu'ils risquent d'aller un peu trop loin et que par conséquent, il faut essayer de l'engager à se modérer, à modérer son enthousiasme et à essayer d'équilibrer ses tentations, ses velléités autoritaires. On doit désirer que ce ministère, tel qu'il est aujourd'hui composé, puisse résister longtemps aux passions du monarque et aux fléaux des intrigues dont il sera toujours si difficile de purger ce pays. Donc la politique est compliquée, mais elle est d'autant plus compliquée par le fait que vous avez un sultan fou, en quelque sorte, un sultan imprévisible qui est en train de jouer un jeu extrêmement dangereux et se constituer en souverain unique et omnipotent. Alors essayons de voir un peu comment les choses changent. Et commençons par ce qui est le plus évident, c'est-à-dire la forme. Réformer et reformer. Quand on forme, beaucoup de ces transformations, et nous l'avons déjà vu au XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle, une grande partie des transformations reste formelle. Elle reste dans la forme, inscrite dans la forme, dans les symboles, et elle reste superficielle, c'est-à-dire qu'elle ne pénètre pas au-delà de la capacité du réformateur d'imposer un certain format, un nouveau format, à son entourage immédiat. Donc, commençons par cela, et on va voir si, au-delà de la forme, il y a un ancrage dans vraiment la société et dans l'état profond, si l'on peut utiliser cette expression. Donc, le règlement de la nouvelle armée, ça, un mois, même deux semaines après les événements, si je le souligne, c'est parce que le règlement de la nouvelle armée comprend une partie qui redéfinit le costume. Donc la forme. Et cette image, dont je ne connais pas l'origine, anglaise probablement des années 1830 ou même un peu avant, elle est intéressante parce qu'elle, de manière assez caricaturale, elle représente un peu la nouvelle Turquie, le nouvel empire ottoman, avec une sorte d'échantillonnage de ces nouveaux costumes derrière une caserne. La caserne comme élément clé de la nouvelle montée en puissance de l'armée, sa présence dans la ville, bien sûr une mosquée, parce que bon, si on produit une image de l'Empire ottoman, comment peut-on la faire sans mosquée? Ça fait partie un peu du répertoire de l'imagerie de l'époque. Mais enfin, et là, ce que l'on voit, bah, c'est l'uniforme. On le trouvera plus ou moins moderne, plus ou moins occidentalisé, mais ce qu'il a, c'est qu'il est uniforme, uniforme. Et ça, c'est la nouveauté, puisque, on l'a vu, les janissaires ou l'armée ottomane, d'une manière générale, ont en général beaucoup de fantaisie dans l'habillement. Il n'y a pas vraiment d'effort, et ça va bien sûr de pair avec ce qu'on appelle le réglage ou le règlement de l'armée, c'est-à-dire le fait que les troupes sont forcées à pratiquer un exercice régulier, à marcher au pas, à se mettre en carré, en file, en je ne sais quoi. Tout ça, ce sont des choses que les Ottomans ne pratiquaient pas auparavant, si ce n'est pour les parenthèses, bien sûr, du Nizam Jadid, sous Selim, etc. Bon, donc, le costume, encore une fois, la forme, est-ce que le soldat change vraiment? Oui et non. On a beaucoup de témoignages qui prouvent que, d'abord, ils ne sont pas très performants, puisque on ne peut pas, du jour au lendemain, se créer une nouvelle armée, d'autant plus que ce sont de nouvelles recrues. On essaye de faire avec ce qu'on a sous la main et de remplacer une armée qu'on a éliminée. Donc, forcément, il va y avoir des couacs, des problèmes. Sont-ils vraiment convaincus de ce qu'ils sont en train de faire? Pas forcément, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de témoignages, encore une fois, de ces diplomates et observateurs occidentaux qui parlent d'enthousiasme de la population. Par exemple, et ça je crois que c'est quand même assez parlant, il y a un passage d'un de ces rapports dont je raffole, où le Drogman, ou le diplomate, je ne sais plus qui c'était exactement, raconte que se promenant dans les rues de Constantinople, il était tombé sur un groupe d'enfants qui jouaient à l'armée et qui imitait en quelque sorte ce qu'il voyait de plus en plus sur les esplanades de la ville, c'est-à-dire de marcher au pas, de s'armer, etc. Et voyant un Français, ils lui ont dit « Viens donc nous apprendre à nous exercer ». Donc, je pense que ce genre de témoignage, ça ne s'invente pas. Et si les enfants dans la rue jouent à la guerre, jouent à l'armée, jouent aux soldats de plomb, c'est que, quelque part, jusqu'à un certain point, il y a une sorte de transmission de ce nouvel enthousiasme du sultan au travers de l'armée jusqu'à certaines couches populaires. 1827, alors vraiment, je fais encore une fois dans la forme et dans la technologie. 1827, c'est une date plus ou moins importante, c'est le premier bateau à vapeur et ottoman. À l'époque, ils les appelaient, avant de les appeler vapor ou vapour, tiré directement de l'italien et non pas du français. Quand on le tire du français, à la fin du siècle, on commence à les appeler des vapeurs. Donc vapor, vapour, vapeur. Mais à l'origine, ils s'appelaient boue. B-U-G, l'unule U, en turc, c'est la vapeur. C'est la vapeur. Donc, apparemment, la première tentative a été de décrire la situation par un vocable turc. Et le premier de ces bateaux, acquis en 1827, fut bien sûr consacré au sultan. Il fut nommé Surat, ce qui veut dire vitesse, célérité. Donc ça va exactement dans l'air du temps. Et le sultan s'en servit pour faire quelque chose que les sultans ne faisaient jamais, un voyage. Un voyage, et pas n'importe où, et surtout pas la porte à côté, puisqu'il est allé en Crète. Donc, premier voyage impérial. Encore une fois, je vous rappelle que le sultan, quand on parle de voyage pour un sultan, on peut tout au plus parler d'un petit tour du côté de la mosquée, d'une ou une autre mosquée de la ville, pour le vendredi. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, avec l'ouverture du Bosphore, le Bosphore devient une grande avenue, en quelque sorte, de la ville, avec des yalı, des résidences, de pacha, des résidences de sultanes, et s'établissant le long du Bosphore et le long de la Corne d'Or, c'est là que la ville devient un peu plus pratiquée, si vous voulez, dans son ensemble, et les sultans se déplacent aux eaux douces d'Europe, aux eaux douces d'Asie, etc. Mais ce sont des petites sorties, des petites promenades en ville qui n'ont rien de très significatif. Or, là, pour la première fois, le sultan quitte la ville. Il quitte Istanbul. Et pas pour une campagne. Encore une fois, il ne sortait plus en campagne depuis la fin du XVIe siècle. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Le sultan qui s'en va en tournée, parce que, encore une fois, c'est un colonel, n'est-ce pas ? C'est un capitaine. Donc on voit bien que s'il a l'intention de prendre un bateau et d'aller voir la Crète, pendant que la guerre fait rage en Grèce, ce qui est quand même un risque, puisqu'il va devoir traverser toute la mer Égée, qui est infestée de corsaires et de combattants grecs, il va jusqu'en Crète, et c'est une tournée d'inspection. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est le sultan qui commence à découvrir son empire. Non qu'il aille jusqu'au Hejaz, au Yémen, mais quand même, c'est un grand pas en avant. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que ça se répète. C'est-à-dire qu'au cours de son règne, il va accomplir, je crois, 5 voyages au total. Aucun ne sera aussi long que celui de Crète, mais quelques années plus tard, en 1830, il ira de Constantinople jusqu'à Rodosto ou Rodoschuk en turc, aujourd'hui Tekirdağ, une petite ville qui se trouve à environ 300 km, 250 km de la capitale. Donc encore une fois, en passant par Ponte Piccolo et Ponte Maggiore, les Cheikh Medjé, les deux lagunes qui sont à proximité d'Istanbul. Donc encore un voyage d'inspection en 1830. Pardon. En 1831, un voyage beaucoup plus important qui le mène jusqu'à Gallipoli et aux Dardanelles. Et de là, il traverse jusqu'à l'île de Tenedos, l'île de Bozjada en turc. De là, il rebrouche chemin, il rentre à Gallipoli, et de là, il va jusqu'à Andrinople, jusqu'à Edirne, l'ancienne capitale de l'Empire avant Constantinople, et de là, il rentre à Istanbul. L'année suivante, il va à İzmit, Nicomédie, au fond du golfe du même nom, en passant par Gebnik, qui est une base militaire. Donc à chaque fois, il y a une inspection de soit une usine, une fabrique, comme on disait, ou alors un arsenal, quelque chose qui va dans le sens de cette modernisation. En 1835, il répète, mais cette fois-ci par terre, il va jusqu'à İzmit, et enfin, en 1937, 2 ans avant de mourir, il fera un grand tour de la Roumélie. Et ça, c'est quand même assez important, puisqu'il va rester absent de la ville pendant des semaines entières. Il s'embarque pour Varna, en Bulgarie. De Varna, il va à Silistrie, en passant par Ruse, par Rustchuk. Il repasse par Turnovo, pour enfin rejoindre de nouveau Istanbul. Et les descriptions que nous avons, parce qu'il se fait accompagner de l'historiographe de l'Empire, les descriptions que nous avons sont assez détaillées pour nous faire une idée de ce que, de comment ça se passe. C'est-à-dire que là-bas aussi, il se comporte comme dans la capitale, c'est-à-dire qu'il se met en scène. Il se donne à voir, il effectue des inspections, des tournées, des casernes, des établissements militaires, il parade, etc. Donc, et il s'adresse au peuple. Alors ça, c'est du jamais vu, ou plutôt du jamais entendu, puisque le sultan, et ça, on en avait vu un exemple la dernière fois, le sultan se tait. Le sultan, ce qui fait la majesté du sultan, c'est non seulement qu'il est complètement retiré de la vie, mais c'est qu'en plus, il ne parle pas. C'est ce qui lui donne un air de grandeur, une sorte de flegme, etc. Il ne parle pas, c'est s'abaisser. Or, on l'a vu la dernière fois, pointer du doigt un bektachi dans le coin, barbu hirsute avec un turban vert, en disant « attrapez-le !» Et ça surprend tout le monde. Ça surprend tout le monde parce que ce n'est pas comme ça qu'un sultan se comporte. Là, ce qu'il fait, c'est encore différent, puisqu'il harangue la foule, il s'adresse à la foule, un souverain moderne qui commence à utiliser des moyens de communication qui sont tout à fait nouveaux. Donc, encore une fois, il est en train de se fabriquer, il est en train de se construire. Je vous rappelle, si vous avez l'occasion, dans un contexte tout à fait différent, de voir l'ouvrage de Peter Burke sur The Fabrication of Louis XIV, la fabrication de Louis XIV. C'est un excellent ouvrage, très illustré et pour cause, où Peter Burke essaie d'expliquer comment l'image de Louis XIV s'est constitué pendant son très long règne, en commençant par ses pas de balai en tant que prince ou roi soleil sur la Seine, jusqu'à son masque mortuaire de 1715. Tout ça, ça fait partie de la construction de quelque chose qui n'existait pas avant, d'un caractère, d'un personnage politique qui est conscient de son désir et de ses capacités à communiquer sa présence, sa vision, son regard à un peuple. Évidemment, on en verra des exemples avec Mahmoud II. Vu la différence entre la culture visuelle en Occident et celle des Ottomans, ça ne prend pas les proportions de Louis XIV. Notamment, il faudra vraiment attendre la République pour voir les premières statues émerger dans l'Empire ottoman. C'est surprenant. Il se modernise énormément, mais contrairement aux Égyptiens qui, dès les années 1850-60, vont pratiquer l'art de la statue et vont par conséquent ériger des statues de Khedive, etc., les Ottomans ne vont pas le faire. Il n'y a qu'une exception, une petite statue équestre de Abdulaziz avec une histoire assez drôle derrière. Mais enfin, ça, on en parlera dans 3 ans lorsqu'on parlera des années 1860. J'exagère. Enfin, à peine. Mais c'est une construction orientale, c'est une construction avec les moyens du bord, mais c'est une construction qui reste quand même extrêmement radicale, extrêmement différente de la rhétorique, de la symbolique que les Ottomans possèdent jusque-là. Alors, la réforme de l'uniforme et du costume, et là, je distingue de ce que nous avions vu au début, ce n'est pas simplement l'armée, c'est toute l'administration, toute l'armée, pas seulement la Asaraki le Mansouré, mais toute l'armée, toute la bureaucratie à qui l'on impose le nouveau costume. En fait, il a même commencé par l'imposer aux oulémas. C'est-à-dire qu'il a imposé aux membres du clergé, entre guillemets, d'abandonner le turban, d'abandonner le caftan, d'abandonner tout ce que l'on associe avec la physionomie orientale, si vous voulez, des docteurs de la loi. Et il leur a imposé la redingote étriquée, le pantalon, etc. Apparemment, ça n'a pas duré très longtemps, il y était allé un peu trop fort, disons. Mais pour le reste, on leur impose, alors cette image qui est assez touchante parce que c'est un album ottoman, alors quand on dit le règne du sultan Abdul Mahmoud, on voit bien que c'est un admirateur d'Abdul Hamid qui est en train de rétroprojeter l'Abdul de son propre maître sur un de ses prédécesseurs, mais en gros, c'est ça, c'est le pantalon. C'est la redingote qu'on va finir par appeler la stambouline, une sorte de redingote un peu étriquée. Ces rajouts, la ceinture, les épaulettes, etc. Et c'est, bien sûr, le fez. Le fez qui changera de forme, mais qui, en gros, restera plus ou moins le même. Le fez qui est un bonnet de feutre dont la spécialité est entre les mains des Tunisiens. L'importation des fez se fait essentiellement de Tunisie. C'est en Tunisie que au XVIIIe siècle, parce que beaucoup de gens portent le fez ou la calotte ou le bonnet, notamment les Grecs. Les Ottomans parfois la portent avec un turban autour, mais après 1829, ça devient en quelque sorte le couvre-chef national, celui qui est imposé. Et bien sûr, le sultan va devoir faire établir une fesshaneh, c'est-à-dire une maison de fez, en fait le nom d'une usine dont la spécialité sera la fabrication des fez à l'intention de ce nouveau marché, celui de toute la petite bureaucratie, de toute l'armée de l'Empire qui se met à porter ces nouveautés. Alors, Mahmoud lui-même joue énormément avec cette vision extrêmement formelle de la modernité à travers le costume. Il décrète, il joint à ce décret qui transforme l'habit, les habitudes vestimentaires de la bureaucratie et de l'armée, il y adjoint des conseils vers le fait d'éviter le luxe, par exemple. C'est-à-dire qu'il voit dans le nouvel uniforme, dans le nouveau costume, une sorte d'économie, puisque le costume traditionnel ottoman est un costume où l'on peut faire des folies en utilisant des tissus extrêmement précieux, notamment des importations des Indes, des châles des Indes, etc., qui tout d'un coup font flamber les prix. Il faut se rendre compte que dans une société qui est encore pré-industrielle, il n'y a pas grand-chose dans lesquelles on puisse investir en matière de luxe. C'est-à-dire que les signes extérieurs de richesse, ils sont limités. Ils sont limités notamment à tout ce qui est bijoux, pierreries, etc. Alors on incruste tout de pierreries pour faire riche, les selles des chevaux, les pommeaux des sabres, etc. Et puis surtout, on investit et on thésaurise en fait les tissus, les tissus extrêmement précieux, les brocarts, les velours, les châles, les cachemires. C'est ça, quand vous regardez un peu les inventaires après décès de dignitaires ottomans, vous verrez tout de suite qu'une grande partie de la valeur est conservée dans justement ce genre d'investissement, c'est-à-dire des vêtements, des textiles et bien sûr des pierreries et des bijoux. Mahmoud se fait faire une paire de tableaux par un Français, encore une fois, du nom de Hippolyte Berthaud, et c'est très amusant parce que c'est vraiment une paire de tableaux à programme, c'est-à-dire que c'est un exemple typique du before-after, du avant-après, puisqu'il se fait représenter avec sa suite dans le costume traditionnel et ensuite dans le costume moderne. Alors bien sûr, la richesse du costume vous fait immédiatement voir que la sobriété n'est pas forcément de mise. On peut bien sûr utiliser des textiles et des objets extrêmement précieux pour avoir un costume moderne, mais quoi qu'il en soit, le fait qu'il ait commandé ces deux tableaux, malheureusement on n'a pas de date exacte pour cette commande, mais ça prouve bien à quel point il est vraiment obsédé, il est vraiment accroché à l'image, au désir de symboliser et de pérenniser en quelque sorte la manière dont il est en train de transformer cette société, à commencer bien sûr par lui-même. Donc, encore une fois, une révolution par le haut. Et c'est là qu'on voit des textes assez amusants, et encore une fois, ce sont les étrangers qui vous offrent ce qu'il y a de plus intéressant quand il s'agit de critiquer ou d'examiner avec un œil critique les transformations de l'époque, puisque, encore une fois, nous n'avons pas de petits pamphlets ottomans circulant, défendant l'ancien costume contre le nouveau, etc. La voix de l'opposition, la voix du petit peuple, la voix de ceux qui ne font pas partie de cette modernité, malheureusement, on ne l'entend que trop rarement. Mais en revanche, vous avez un type extraordinaire, ce Daubignosc, un ancien grognard. Donc déjà, c'est un militaire donc, qui a fait toutes les campagnes napoléoniennes, qui, en 1836, si je ne me trompe, est recruté par les Ottomans pour participer justement à l'entraînement et à la transformation des troupes. C'est un ouvrage en deux volumes où il parle justement de la Turquie nouvelle et il parle donc des réformes de Mahmoud. Ce qui est amusant chez Daubignosc, c'est qu'il est un peu, un peu fou, quoi. C'est un original, si vous voulez. Et il y a beaucoup de réformes qu'il trouve extrêmement nuisibles au futur et au sort de l'Empire. Et le chapitre, il est très court, le chapitre que je préfère dans son ouvrage, c'est celui qu'il consacre, le chapitre 10, aux grandes moustaches. Il a tout un chapitre sur les grandes moustaches. En gros, ce qu'il y dit, c'est que la réforme de Mahmoud a éliminé, de la même manière que les janissaires, les moustaches. C'est-à-dire que ces belles moustaches qui étaient l'apanage très mâle, n'est-ce pas, de ces janissaires, a disparu, elle a été proscrite, et par conséquent, vous avez maintenant des soldats pratiquement imberbes, ou en tout cas bien rasés, qui n'ont plus rien à voir avec ce que l'on associe avec la physionomie orientale, l'exotisme des siècles précédents. Et il s'en lamente. Il s'en lamente d'abord parce que c'est un orientaliste, et tout le monde l'est. C'est un des problèmes de l'orientalisme. L'orientalisme ne cessera de vous dire que ces orientaux sont attardés, arriérés, incapables de changer. Et quand ils changent, ils vont se lamenter en disant « Mais où est passée la splendeur, la beauté, l'exotisme de l'Orient que je connaissais ?» Donc, on perd à tous les coups. Et ça, c'est un phénomène extrêmement courant au XIXe siècle. Vous avez énormément de voyageurs, d'observateurs, etc., qui se lamentent sur la disparition de l'Orient qu'ils aimaient, de l'Orient qu'ils voudraient. C'est d'ailleurs pour cela, je vous en avais montré une image, qu'en 1852, à peine 25 ans après la destruction des janissaires, qui était quand même un mouvement politique, une décision politique extrêmement radicale, les Ottomans vont devoir se constituer un musée du costume ancien, dont la collection est en fait une série de mannequins en bois vêtus des costumes des janissaires. Pourquoi ? Parce que le touriste demande, parce que les visiteurs à Constantinople veulent voir la ville qui a disparu, veulent voir cet exotisme oriental. Donc Daubignosc, c'est ça, mais c'est aussi le fait que dans sa tête, la moustache est un privilège. Au-delà de l'uniforme, c'est quelque chose qui s'implique, qui se conjugue avec la bravoure, j'allais dire bravitude, des soldats, et que par conséquent, en leur retirant ça, on leur retire en quelque sorte leur masculinité, on leur retire le privilège qu'avaient certains de pouvoir arborer cette moustache qui en disait long sur leur valeur. Et donc il a tout un chapitre où il essaye de convaincre Mahmoud d'au moins accepter une sorte d'amendement à ce nouveau règlement par lequel les plus méritants auraient le droit de porter la moustache. Mais dans le même ouvrage, il parle du costume, et là, vous voyez quelque chose qui est encore une fois très typique du XIXe, ce tiraillement entre le désir de les voir changer et le fait de leur refuser le droit de changer, en parlant des Orientaux. C'est-à-dire le fait de dire que, en gros, l'uniforme moderne, les formes modernes, quelles qu'elles soient, qui sont importées d'Occident, elles sont propres à l'Occident et, par conséquent, si un oriental commence à les imiter, il finira par avoir l'air d'un singe. C'est-à-dire que ça n'est pas adaptée à leur personnalité, à leur caractère. Encore une fois, un essentialisme tout à fait typique de l'orientalisme. Donc, en négligeant cette considération, on a rendu ridicule un peuple qui en imposait encore, il y a peu d'années, par une belle représentation. Aujourd'hui, il fait peine à voir. L'ampleur des anciens vêtements masquait ces infirmités acquises. Parce qu'en plus, ils sont difformes, n'est-ce pas ? Ils ont les jambes arquées, etc., à cause le cheval. Enfin, tout, c'est de l'anthropologie essentialiste. Hein, je veux dire, c'est. Bon. Les habits serrés les dessinent et les rendent apparentes, ajoutés que tous se sont gauches dans leur nouvel accoutrement. Donc, toutes sortes de références extrêmement négatives à quelque chose qui est à cheval entre le fait d'usurper, en quelque sorte, quelque chose qui est propre au monde civilisé et la perte de la nature même de ces individus. Gênés dans leurs habits et manteaux brodés, sortis de la mode de tailleurs inhabiles, ne sachant pas porter les épées ou sabres, partis obligés de leur costume d'apparat, ils sont honteux eux-mêmes d'une métamorphose qu'ils jugent bien ne pas leur être favorable et ils semblent partager l'hilarité, etc. Donc, certains, ils les nomment Reshid Pacha, et Reshid Pacha, c'est quand même l'un des personnages les plus importants de cette réforme, notamment sous le successeur de Mahmoud, lorsqu'il est engoncé dans son costume occidental, ils ont l'air de singes, dit-il. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une opinion qui est partagée aussi par certains membres de la classe dirigeante. Mustapha Reshid Pacha, justement, celui dont on parlait à l'instant, est censé avoir dit, donc en se dépouillant de ses anciens vêtements, dit encore une fois le comte de Boilcomte, qui a été envoyé en mission en Orient en 1833-34 et qui envoie des rapports circonstanciés à Paris, il dit « En se dépouillant de ses anciens vêtements, l'homme rejette en arrière son passé, prend un esprit et une existence nouvelle. Mais sans parler des regrets que laisse la beauté du costume oriental, la gêne et l'humiliation que le Turc éprouve dans nos vêtements modernes lui ôtent une partie de sa fierté, de son énergie, de son caractère national. » Et ensuite, il cite ce qu'il attribue à Reshid Pacha. « Ce n'est pas seulement le corps qui est resserré et comprimé dans ses étroits vêtements, disait Reshid Pacha, c'est l'âme tout entière. » Alors, est-ce que vraiment des gens sont persuadés dans l'entourage de Mahmoud que Mahmoud est en train de les uniformiser pour leur ôter une partie de leur autonomie? C'est possible. Encore une fois, ça n'est pas que le côté purement militaire, purement technique, purement formel qu'il faut prendre en considération, puisqu'il y a là un désir d'homogénéiser et de réduire par conséquent les différences en rendant tous les sujets, notamment cette classe bureaucratique, plus malléable, plus standardisé. Donc la modernité, après tout, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la modernité en Occident, elle aussi, elle amène énormément de nivellement, si vous voulez, de différences qui, à l'époque, faisaient l'apanage de certaines classes, de certaines professions, etc. Et par conséquent, elle efface, elle gomme des différences qui pourraient avoir une valeur sociale, une valeur culturelle beaucoup plus importante. Est-ce que Mahmoud est conscient de ce qu'il est en train de déconstruire, en quelque sorte, le dignitaire ottoman ? Je ne sais pas, mais je pense que, encore une fois, en faisant confiance à ces observateurs occidentaux et à leurs petits rapports, qui toujours ont un rapport avec la vérité, avec même très anecdotique, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte lorsqu'on étudie, en quelque sorte, l'impact social de toutes ces transformations. Je vous le disais, l'une de mes passions la nécrophilie, allais-je dire, puisque je travaille énormément sur l'art funéraire ottoman, l'épitaphe, etc. Et j'ai constaté statistiquement, entre guillemets, mais quand même, Nicolas Vatin, s'il est là, me confirmera, on a quand même travaillé sur un corpus de stèles assez important pour que ce soit au moins de la pseudo-statistique. J'ai constaté que vers la fin du 19e siècle, la tradition ottomane d'avoir un couvre-chef tend à disparaître. Pourquoi ? Ben, parce que avec la réforme de 1829, vous voyez tout de suite un reflet sur les stèles, c'est-à-dire que les stèles commencent à s'orner de fez. Et ça, vous le voyez dans les décennies qui suivent, mais de moins en moins. Et pourquoi ? Ben, essentiellement parce que le fez est d'une banalité surprenante, c'est-à-dire que le fez ne permet plus de distinguer tel groupe d'un autre, tel individu d'un autre. Les turbans avaient des formes diverses et variées qui avaient toutes un sens, tandis que le fez, il est uniforme. C'est un pot de fleurs inversé que renversé que porte aussi bien l'épicier grec que le regrattier arménien, que le sous-fifre de bureau. Il est identique. Et par conséquent, il perd son sens, puisque le sens dans l'art funéraire était de distinguer les individus et de donner une apparence du vécu, une référence au vécu, au statut de l'individu qui est inhumé. Et par conséquent, de manière très logique, les Ottomans commencent à se débarrasser du fez sur les stèles et le remplacer par des fleurs, par des flammes, des éléments baroques, des obélisques. On va vraiment dans la modernité, on oublie complètement cet anthropomorphisme qui n'a plus d'utilité parce que le fez a en quelque sorte effacer toutes les différences. Enfin, les médailles et les décorations, ça aussi, vous vous souviendrez que j'avais évoqué sous Sélim III l'apparition pour la première fois de médailles et de décorations, mais ce qu'il y avait de particulier, c'est que ça avait été créé uniquement pour satisfaire les ambitions et l'attente des Britanniques qui avaient soutenu l'effort militaire ottoman lors de l'expédition d'Égypte, pendant l'occupation de l'Égypte par Bonaparte. Et par conséquent, ces médailles et cet ordre du croissant, comme on l'appelait, n'étaient en fait octroyés qu'à des étrangers. Et les Ottomans ont utilisé ça, Mahmoud lui-même, jusque dans les années 1820, en distribuant, parce que ce qui plaisait bien sûr aux étrangers, c'est que toutes ces médailles, notamment les plus élevées, étaient incrustées de pierres précieuses, donc on était ravis d'en recevoir d'aller vendre les pierres ensuite chez le joaillier du coin. Mais les Ottomans, non. Et ce que Mahmoud va faire, c'est qu'il va utiliser cette symbolique moderne pour un usage domestique. Et pour cela, il va utiliser un monument, un bâtiment qui lui-même va être très profondément chargé d'une symbolique liée à la destruction des janissaires. Je veux parler de la mosquée de Nusretiye qui se trouve à Toprane, je vous en montrerai une image. Et on voit bien dans le rapport d'ambassade du 22 juin que cette mosquée qui avait été construite récemment et qui avait été appelée Adliye, c'est-à-dire juste, la juste, parce que Mahmoud, son sobriquet est de Adli, donc c'était une référence à lui, c'était une manière de dire, d'appeler la mosquée de son nom. Il va la renommer Fethi Sultan Mahmoud. On n'a jamais vu ça dans les sources ottomanes, mais ça ne m'étonne pas, puisque fétiche, c'est-à-dire la conquête religieuse, est quelque chose qui va tout à fait dans le sens de cette rhétorique extrêmement islamiste de la djihad, etc., à l'encontre des janissaires. Petit détail, on voit comment les rapports d'ambassade finissent dans la presse. Dans la presse, le journal des débats politiques et littéraires, c'est intéressant de voir que là, vous avez ce qui veut dire que le Quai d'Orsay est en train de nourrir la presse à travers ses rapports diplomatiques qu'il reçoit. Alors voici cette mosquée, Et cette mosquée va être consacrée doublement avec la création de la première médaille ottomane à l'intention des Ottomans, la médaille dite de la Jami Nusret, c'est-à-dire de la Jami Nusret, c'est-à-dire la mosquée de la victoire. Donc une référence, encore une fois, à ce combat, à cette campagne menée contre les janissaires. Vous y voyez là le Toura, la Toura du sultan, avec son sobriquet Adli inscrit là, et là Nishan Iftihar, l'ordre du mérite, l'ordre de la gloire. Donc c'est vraiment quelque chose qui va dans le sens des médailles militaires que l'on connaît en Europe à cette époque-là, qui débutent vraiment en Europe aussi. Au 18e à peine, on a déjà les ordres, mais les médailles, c'est beaucoup plus rare. Donc le 19e siècle est un siècle très militarisé où ce genre de symbole sont importants. Et elle a apparemment un tel succès qu'on la trouve assez facilement sur le marché, mais surtout, j'ai trouvé une pierre tombale, encore une fois, ma nécrophilie me fait découvrir, et ça, voilà ce que j'appelle l'anthropomorphisme un peu distordu des Ottomans, le fait que la stèle, pour accueillir un texte de plus en plus important, commence à prendre des formes un peu rondelettes. Donc là, c'est ce que, avec Nicolas, on appelait la contrebasse, je crois. Et au sommet, vous avez un coup, et sur le coup, vous devriez avoir le couvre-chef. Malheureusement, il a été cassé. Mais ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que le détail, là, vous montre quelque chose qui est encore anthropomorphique, c'est-à-dire qu'on a reproduit en pendant au cou de l'individu la médaille qu'il avait apparemment reçue, ce qui est vraiment un tournant décisif dans l'usage, dans l'utilisation de ces symboles par les Ottomans, puisque maintenant ce sont des Ottomans, pur sang si vous voulez, qui commencent à recevoir et à apprécier ces symboles. Encore une fois, une sorte de militarisation, de standardisation et de contrôle par le haut des classes dirigeantes. Et plus encore, pour vraiment signifier son plaisir et son appréciation de quelqu'un, le sultan donnera quelque chose qui est appelé le portrait impérial ou le tasvir humayun. Tasvir, c'est l'image, c'est la reproduction, c'est le portrait. Humayun, c'est impérial. Et il s'agit en fait d'un petit bijou. Encore une fois, la tradition ottomane, on entoure ça de pierreries, de brillants, de diamants, etc. Et au milieu, vous avez le sultan qui lui-même porte une de ses décorations, bien sûr l'une des plus riches, arbore le magnifique fez rouge et représenté en costume, c'est-à-dire en uniforme, avec les boutons dorés, des épaulettes, je ne suis pas sûr, mais en tout cas un col extrêmement décoré qui fait penser à la magistrature d'aujourd'hui. Bon, c'est un objet de grande valeur, mais c'est un objet surtout qui secoue, puisque c'est une image. C'est une image de l'individu, c'est une représentation d'un individu, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la tradition islamique, disons. Il ne faut pas non plus croire que les Ottomans sont complètement iconoclastes et qu'ils n'utilisent jamais les représentations. On a assez de peintures ottomanes, de miniatures, comme on les appelle, pour prouver le contraire, mais c'est vrai qu'ils en usent avec parcimonie. Ce n'est pas comme en Iran, par exemple, où les Qadjars, déjà, mais avant eux, les Safavides, ont une tradition de l'image qui est très forte, avec des panneaux, des fresques, des tableaux, et ce, jusqu'à l'usage qu'ils feront de la photographie, qui sera toujours beaucoup plus sophistiquée que celle des Ottomans. Donc les Ottomans n'utilisent pas en public l'image, les références, les albums de miniatures sont en général pour une consultation privée au palais, entre amis, etc. Donc on ne snobe pas l'image, mais on n'en fait pas étalage. Et tandis que là, il s'agit de quelque chose que l'on offre à des grands, des dignitaires. Alors là, vous en voyez un, Saad Gefat Pasha, avec au cou une version de l'ordre de la gloire ou je ne sais quoi, et là, en médaillon, une version ovale du Tasvir Humayun, du portrait impérial. C'est vraiment le nec plus ultra, quelque chose que l'on donne aux têtes couronnées d'Europe et aux plus méritants des dignitaires de l'Empire. Et c'est donc une représentation du sultan, et ça, dès 1832. Et vous trouverez beaucoup d'images, y compris celle du fameux Mustafa Reshid Pacha, que l'on voit là, n'est-ce pas, dans son costume étriqué qui est censé le faire ressembler à un singe de Noël en tout cas, si l'on en juge par les décorations, puisqu'il y en a un peu partout, et vous reconnaîtrez probablement ici la plaque de la Grand Croix de la Légion d'honneur. Donc, il commence à pratiquer aussi l'échange des décorations, ce qui est un premier pas vers une diplomatie extrêmement participante, extrêmement active, extrêmement présente dans les rituels internationaux. Cet individu, malheureusement, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, vous voyez dans les deux cas que le costume est un costume extrêmement riche, un costume sobre dans sa conception, c'est-à-dire que c'est un uniforme militaire, mais que l'on arrive à enrichir par l'apport de toutes sortes d'épaulettes en or, de décorations, de broderies, de brandenbourg, de tout ce qu'on veut qui signifie le statut. Donc, encore une fois, s'il a évoqué la sobriété comme un des objectifs de cette réforme, il est clair, comme c'est toujours le cas, que ce qui part d'une idée de sobriété finit par trouver sa propre rhétorique de la distinction et de la hiérarchie pour s'adapter à des besoins qui sont profondément ancrés dans la société. Mais ce petit portrait, donc en 32, le petit portrait portable, et là, on sent bien qu'il a vraiment voulu provoquer, puisque le premier à recevoir le portrait impérial a été le cheikh d'Islam, c'est-à-dire la tête du clergé. Donc c'était vraiment le fouet dans l'œil, si vous voulez, du parti musulman, du parti islamique conservateur, en obligeant ce digne représentant de l'islam dans l'État ottoman à accepter et à arborer le portrait du sultan, cette espèce de camée qui devait lui pendre au cou. Mais au-delà de cela, ce que Mahmoud va faire de vraiment révolutionnaire, et là, ça va au-delà ce compromis entre le public et le privé que sont les décorations, il va faire accrocher son portrait en majesté dans des édifices publics, notamment dans des casernes et à la Sublime Porte. C'est-à-dire, c'est un peu la tradition très monarchique occidentale d'avoir un portrait du souverain dans les lieux qui revendiquent une appartenance à l'État. Sélimiyah, la grande caserne, l'énorme caserne sur la rive asiatique, ensuite la caserne de Taksim et enfin la Sublime Porte, c'est-à-dire les bureaux du grand vizirat vont se voir dans les semaines qui suivent donc la fin du mois de juillet 36, vont se voir décorés du portrait impérial. Alors, quel est-il, ce portrait ? Le voici. C'est le seul qu'on connaisse, parce que la plupart de ces portraits, après la mort de Mahmoud, vont être décrochés et retirés du regard du public, puisqu'ils sont très mal reçus. C'est une des raisons, parmi tant d'autres, que Mahmoud sera appelé par le petit peuple, et ça on le sait, Giavur Padishah, le sultan Giavur, le sultan infidèle, le sultan chrétien, en quelque sorte, celui qui a bravé tous les interdits de l'islam, qui a provoqué tous les interdits de l'islam, et qui est allé jusqu'à se faire représenter dans des espaces publics en majesté, bravant ainsi les interdits coraniques. Et ce portrait, il est assez classique dans sa rhétorique très occidentale, puisqu'on reconnaît les draperies, derrière une sorte de silhouette de la ville, une table avec de nouveau une draperie en velours par-dessus, le sultan dans un riche uniforme moderne, avec un geste qui est quand même assez parlant. Il commande, il montre le chemin. Enfin, il y a toutes sortes d'interprétations possibles. Et il tient, en plus, bien visible pour le lecteur, même si c'est un gribouillis infâme, parce qu'on ne sait pas. C'est un peintre occidental, donc il ne sait pas reproduire l'écriture arabe. Mais on reconnaît quand même son chiffre, ça, tout là. C'est un décret. Donc c'est le décret. Alors, quel décret ? C'est un décret qui institue telle ou telle chose, mais enfin, c'est la voix du sultan, c'est l'écrit du sultan, c'est le sultan qui commande et par le geste et par l'écrit. Et une jeune historienne de l'art américaine, Ali Tandrup, a récemment publié un petit article où elle pense avoir trouvé une inspiration possible pour ce tableau, qui est un tableau de Napoléon. Un tableau de Napoléon où, vous voyez, cette pose est tellement, entre guillemets, universelle qu'on ne peut pas savoir si vraiment... Mais c'est une possibilité, puisqu'il y a encore la même grammaire, si vous voulez, d'avoir, dans son cas, ce sont des plans, puisqu'il est en train de rénover Bruxelles, donc ce qu'on voit derrière la fenêtre, c'est la ville de Bruxelles, etc. Mais il est possible. Alors ça, je pense que quand on parle d'histoire de l'art et qu'on fait des comparaisons, qu'on essaye de lier des objets entre eux, il faut un peu plus qu'une simple ressemblance pour vraiment affirmer avec quelques certitudes cette parenté. Mais il est possible qu'on trouve un jour, par exemple, une missive d'un ambassadeur ottoman à Bruxelles qui aurait vu ce tableau ou qui l'aurait vu je ne sais où et qui l'aurait envoyé, qui en aurait envoyé copie à Mahmoud. Enfin bon, quoi qu'il en soit, c'est un tableau de majesté à l'occidental. Et voici plus tard Schlesinger, c'est un Alsacien, Schlesinger fera un portrait encore une fois en majesté de Mahmoud qui rappelle énormément les tableaux de ses contemporains. Je pense notamment à Louis-Philippe, encore une fois exactement la même chose, une colonne, une draperie, un petit décor, un paysage dans le fond, un tapis occidental, hein, s'il vous plaît, etc. Donc ce qui est amusant, c'est de voir la différence entre deux autres contemporains, donc Mahmoud et Othon, le roi de Grèce, qui lui s'orientalisera, le pauvre Bavarois qui se retrouve sur le trône de Grèce, il va devoir s'inventer une identité grecque. Et pour cela, il va utiliser, en gros, enfin le peintre va utiliser, encore une fois, la même structure grammaticale, disons, colonne, etc. Mais là, il sera vêtu en exode, avec la fustanelle, etc., pour bien signifier le fait qu'il est... peut-être bavarois, mais surtout grec. Et je pense qu'il y a quand même une certaine ironie à voir ces deux souverains contemporains, l'un oriental, entre guillemets, imitant l'Occident, l'autre occidental et imitant l'Orient. Bon, je crois que ça en dit long sur l'ère du temps et l'importance qu'avaient justement ces représentations aux yeux du public. Je terminerai avec un rapport de 1833, encore une fois de Bois-le-Comte, sur une fête qui eut lieu le 5 octobre 1833 au palais de Carataranet, au fond de la Corne d'Or. C'est un lieu qui est bien connu au XVIIIe siècle pour les plaisirs, alors l'escarpolette version ottomane. C'est une représentation des années 1790 des amusements à la campagne. C'est un lieu qu'on appelle en turc de mesire. Mesire, c'est la campagne, c'est le parc, c'est le fait d'aller au vert, en quelque sorte, et de s'amuser. C'est quelque chose que les femmes pratiquent énormément, en général avec une certaine séparation entre les uns et les autres. Les bassins sont, font partie, justement, de ces éléments architecturaux qui ont été, entre guillemets, importé d'Occident par Yilmisekis Mehmet Çelebi en 1720. Il est revenu avec sous le bras plein d'ouvrages d'architecture sur Versailles, sur Marly, etc. Et voilà le palais. Alors le palais, on le voit, voici une représentation occidentale de la même scène, en quelque sorte, avec de nouveau les eaux douces, c'est ce qu'on appelle en français les eaux douces d'Europe. Les Ottomans n'ont jamais utilisé ce terme, c'est pas les tartes soulages, etc., ça ne se dit pas. Mais voilà donc Karatane. Alors ce que ce rapport a de particulier, c'est que tout d'abord, il est excessivement amusant. Et on a bien le droit de s'amuser de temps en temps. Il est très vivant. Encore une fois, c'est un de ces documents que je savoure particulièrement parce qu'il est plein de petits détails qui sont fascinants, mais avec un comique, une ironie que je trouve particulièrement intéressante. Alors, le début est assez classique. On arrive, on s'installe. Vous avez la liste de tous les pachas et de tous les envoyés qui sont là. Petit détail intéressant, il insiste sur le fait que les petites ambassades, les petites puissances n'ont pas été invitées, c'est-à-dire l'Espagne, les États-Unis, la Hollande, etc. Et il l'explique de la manière suivante. Il dit que ce sont les seules ambassades auxquelles ils peuvent encore appliquer le dédain qui les caractérisait à l'époque. Vous vous souviendrez que j'avais parlé l'année dernière de cette hospitalité empoisonnée des Ottomans, c'est-à-dire qu'on les traite mal, mais on les invite quand même. Et ça fait partie du rituel ottoman de se poser en puissance et de ridiculiser en quelque sorte les autres. On voit bien qu'en 1933, il n'est plus possible de faire ça aux grandes puissances, aux Anglais, aux Français, aux Russes, aux Prussiens, mais on le fait aux petits, ce qui fait que les petits ne sont pas invités. Et ensuite, vous avez le plan de réception. Et là aussi, je vous rappelle cette image que j'avais utilisée l'année dernière, où l'on voyait la réception d'un ambassadeur. Vous vous souviendrez peut-être que j'avais insisté sur le fait que les bancs, les escabeaux en face de ces deux ottomans enturbanés étaient vides parce que c'était des kazaskej faisant partie de l'ouléma et qui ne voulaient pas être souillés par la vue d'infidèles en face d'eux. Mais sinon, ce qui est surprenant, c'est que vous avez une sorte de combinaison des deux. Vous avez le même plan pour la réception, avec le grand vizir au milieu, les dignitaires à droite, les ambassadeurs à gauche. Mais vous allez le voir, la description de l'événement est très différente. D'abord, le sultan fait son apparition. Il invite les gens les membres du corps diplomatique à venir le voir. Nous arrivâmes et le trouvâmes au fond d'une grande salle carrée et sans ornement. Il était assis dans un fauteuil, il ne se leva pas, ne fit aucune inclinaison, mais regarda. C'est son salut. Alors là, on voit quand même que le fond est toujours là, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'amuser, du moins pas tout de suite, à converser avec les invités. Il se retire dans un état de majesté, il en impose par son silence, et le simple fait qu'il vous regarde est déjà un compliment qui vaut tous les sourires et tous les salamalek du monde. Nous nous rangeâmes dans la salle, restant tous debout. Le sultan tira de dessous son manteau un papier écrit de sa main et le donna à l'interprète Logothéti, grec bien sûr, l'interprète de la porte. Celui-ci le lut d'une voix tremblante, alors ça est troublé, j'imagine que, oui, la moindre fausse note, on s'inquiète, sa hôtesse exprimait le plaisir qu'elle avait de voir les représentants des puissances de l'Europe réunis autour d'elle. Donc, un certain relâchement de l'ancien rituel où le sultan était tout seul sur son trône, à distance, dans la salle d'audience, et n'adressait absolument pas la parole, il ne regardait même pas les gens autour de lui. Là, on est presque à une sorte de situation de cocktail, de réception, même s'il reste quand même très silencieux. Alors, il y a le problème de la langue, une petite anecdote qui me plaît particulièrement. Lord Ponsonby, l'ambassadeur britannique, éprouva personnellement l'inconvénient de cet obsèque des langues. Le sultan voulait lui faire compliment. L'interprète chargé de le rendre s'en acquitta ainsi. Le sultan fait dire à son excellence qu'elle est bien vieille et qu'elle monte bien à cheval. L'ambassadeur eut la faiblesse de s'en montrer mortifié. On peut bien se faire plaisir de temps en temps. Mais je crois que ça fait partie un peu de cette obsession que j'ai d'essayer d'imaginer toujours une dimension cinématographique à ces événements. Ce ne sont pas que des événements. Il y a des hommes, il y a des contacts, et ce genre de document vous le donne. Et ça s'arrange, ça devient de plus en plus intéressant. Le sultan, arrivé sur la hauteur, puisqu'ils sont invités en fait à assister au passe-temps favori du sultan, un exercice militaire, et cette fois-ci un exercice de tir. Il aime beaucoup ces topcheux, ces canonniers. Donc il descend de cheval et les pointe lui-même. Un Français, M. Thévenant, révisa le pointage. Chaque pièce tira deux fois. Le but fut atteint par 3 coups. C'était 3 sur 36. Alors bon, pour parler justement de l'efficacité de cette armée, déjà avec les moyens de l'époque, est-ce qu'on peut vraiment faire mieux que 3 sur 36 ? Je n'en suis pas vraiment sûr. Mais enfin, quoi qu'il en soit, je trouve que c'est quand même un petit clin d'œil amusant sur le fait que ce sont des arts qui sont encore en train de se développer. Pendant ce temps, les dames, alors il n'y en a pas beaucoup, il y a en fait l'ambassadrice de France et la femme de l'internonce d'autres. Donc deux femmes, les dames auxquelles nous donnions le bras furent avec nous passer la revue des femmes turques venues en grand nombre assister à ce spectacle. Alors encore, vous vous souviendrez que Mahmoud avait demandé à ce que les femmes viennent assister aux exercices des goélettes, etc. Donc encore une fois, le public. Et ce qu'on avait vu sur l'image de Karatrahanès, c'est-à-dire ce dimanche à la campagne, devient un dimanche à la campagne militaire. C'est-à-dire qu'on vient admirer ce qui se passe dans l'armée avec la présence du sultan. Étant tout ensemble et sans mélange d'hommes, ces femmes s'étaient mises à leur aise et plusieurs s'étaient découvertes. Alors ça, c'est le fantasme, bien sûr, de tous les observateurs. Ils rêvent de voir des femmes musulmanes dévoilées. Alors la moindre occasion pour eux est excessivement importante. Le dîner était servi à l'européenne. Alors ça, c'est vraiment du nouveau. Le service se faisait avec beaucoup d'ordre et de promptitude. Tous les vins étaient français. Les Turcs en buvaient largement. Alors ça, j'ai beaucoup aimé. Je ne prétends pas connaître tous les documents de la période, mais c'est la première fois que je vois une description aussi détaillée de beuverie à Istanbul. Le grand vizir seul, Raouf Pacha, ne buvait d'abord que de l'eau, et ça c'est très mignon. Quand on lui versait de vin, il n'osait le refuser, mettait sa main devant le verre pour faire semblant de boire et le faisait disparaître, car s'il fut un temps où l'on se fût ici compromis en buvant du vin, ce serait maintenant risquer sa place que de n'en pas boire. Alors là, vraiment, on voit que cette transformation superficielle par le haut, elle est vraiment assez radicale. Tahir Pacha s'aperçut des scrupules, alors ça j'adore, des scrupules et de la ruse du vieux musulman, et se plut à le tourmenter. « Mais pourquoi donc votre excellence ne boit-elle pas » dit-il sournoisement, et lui trouve une sortie magnifique. « Quand on est à côté de madame, répondit Raouf Pacha en regardant l'ambassadrice de France, on n'a pas besoin de vin pour s'enivrer. C'est magnifique parce qu'ils apprennent en quelque sorte l'art de la cour. C'est quelque chose qui... La présence des femmes, et ça c'est quelque chose qui va les poursuivre jusqu'à la fin de l'Empire. À la fin de l'Empire, vous avez des dîners officiels où les ottomans, les dignitaires ottomans, le grand vizir, etc., ne sont pas accompagnés, puisque leurs femmes ne peuvent pas participer à un dîner public. Mais en revanche, les ambassadrices y sont. Et par conséquent, ils se servent en quelque sorte des langues étrangères comme de femmes décorant la table afin d'avoir un service à l'occidental. Le dîner était à peine commencé, qu'on annonça que le sultan venait nous visiter. Au moment où il allait parrainer, l'ambassadeur de France porta son verre à sa santé. Il disait « porter la santé » à cette époque-là. Il se montra aussitôt. Alors, il n'attendait que ça, apparemment, derrière le rideau, le toast. Et tout le monde se leva et tourna le dos à la table. Sa hôtesse en fit le tour. Elle s'arrêta un moment devant l'ambassadeur de France et le remercia d'avoir bu à sa santé. Le grand vizir prit cet instant pour lui présenter Madame l'ambassadrice. Le sultan lui fit un salut européen. Et continua. Et ça continue. Il rencontra quelques pas plus loin le vieux drogman d'Angleterre, Chabert, le seul qui ait conservé le costume oriental. « Comment, lui dit-il, vous n'avez pas encore quitté ce vilain costume ? Voyez-moi, il y a longtemps que je l'ai abandonné. » Sa hôtesse n'adressa la parole à aucun autre des convives. Elle était souriante et très gracieuse. « Il faut en convenir, dit Lord Ponsonby, l'ours est bien déguisé. » En sortant de la salle du festin, le sultan fut dîné de son côté. Il se fit servir 3 espèces de vin de France, mais en but cette fois avec modération. Bon. C'est un passage que je dédie à mon ami et collègue François Georgeon. Je vous avais parlé de lui, je crois qu'il est dans la salle, je vous avais parlé de lui la semaine dernière. Il travaille sur les Ottomans et l'alcool, et je crois lui avoir fourni quelque chose qui ira bien s'insérer dans son anthologie du vin et des Ottomans. Le dîner reprit, les Turcs buvaient de plus en plus. Le premier médecin de sa hôtesse, surtout, quoique homme de loi, alors c'est un ouléma, et second personnage de l'ouléma, était très animé et sortant de ce ton de réserve qui ne permet aux Turcs de quelques distinctions de ne parler qu'à voix basse, il faisait avec de grands éclats conversation avec le Selasker placé de l'autre côté de la table. Donc vraiment, c'est un autre monde. Et c'est ce que... c'est la suite aussi, enfin je ne vais pas m'éterniser, je n'ai plus qu'une minute, mais cette conversation fut interrompue par un trait de courtisan du Selasker, Youssef Pacha, qui avait déjà dans les 85 ans à l'époque. Madame de Sturmer, c'est-à-dire la femme de l'internonce, lui en dit qu'elle écrirait en Europe le bonheur qu'elle éprouvait de voir le sultan dès le second jour de son arrivée. Le Selasker se leva de table et fut immédiatement le répéter au sultan. Il revint bientôt et annonça à Madame de Sturmer à quel point son maître avait été flatté du compliment. S'adressant alors à Madame l'ambassadrice, il la fit prier de l'employer à faire boire le grand vizir. Ils en sont encore là. Le grand vizir n'a toujours pas bu. Et son voisin, celui-ci, ne se prêta qu'à boire un peu de vin blanc, le pauvre. Mais après avoir répondu au toast de l'ambassadeur par celui de toutes les puissances, il se leva et porta le verre, mais à la santé des dames. Donc je terminerai avec cette petite courtisanerie, comme il disait, du Serasker. Encore une fois, c'est drôle, c'est amusant, mais c'est quand même assez parlant. C'est-à-dire que c'est un phénomène d'émulation, encore une fois par le haut, on finit par renverser complètement les normes et se convaincre de ce que si l'on commence à boire, on va vraiment changer la face du monde. Ce qui est souvent vrai, mais pas dans le sens qu'il le pensait à cette époque-là. Mais enfin, je continuerai donc et je terminerai la semaine prochaine avec une sorte de synopsis du règne de Mahmoud II afin de préparer le terrain pour ce qui sera le sujet central de l'année prochaine, les Tanzimat, c'est-à-dire le gros morceau de modernisation et de transformation qui sera initié le 3 novembre 1839 avec la proclamation du décret des Tanzimat. Je vous remercie, bonne journée.